Madame Chirac, Bernadette. Sur vos roues, j'ai perdu mes dents. Sur vos roues, j'ai vu la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, j'ai dessiné en mille facettes. Un cœur rouge, les rues d'un gars, sans oublier rue de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain. C'est les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que c'était sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas. Cela peut arriver au prophète. Monsieur le président, Madame Chirac, Bernadette. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains. Au moins, cassez les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse, vous de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à Marche ou Crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du Toutry Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musil aura un chef de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'entend d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans l'ennemi de son fils numéro 1. Mais j'excuse l'Élysée si j'ai plus de frein. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage. Je vous fais serment devant le juge. Tu juges ce qui m'ont jugé, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin. Il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir. Je leur envoie les câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui c'est vrai qu'Anan, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu éviter sa banane, m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire 89.4 FM. Pour cette première émission de l'année 2023, nous vous présentons nos meilleurs vœux et nous vous présentons notre invité, Samuel.
Bonjour Lycelle.
Bonsoir.
Donc tu es enseignante à Cergy et tu vas publier un livre.
Féministe décoloniale.
Féministe décoloniale avec Philippe
Collin.
Collin, voilà. Mm-hmm. Qui paraîtra donc le 9 mars aux éditions Zone. Donc c'est à la découverte.
Voilà.
Mm-hmm. Et il parle de pensée décoloniale.
Absolument.
Et c'est de ça qu'on est venu parler aujourd'hui. Alors, si tu devais expliquer en deux phrases déjà pour nos auditeurs, c'est quoi la pensée décoloniale, tu dirais ça comment?
Alors, la pensée décoloniale est une théorie finalement critique qui considère que les systèmes de domination, il y a différents systèmes de domination, donc de classe, de race,
de genre,
et aussi de colonialité, de l'être, de la nature, enfin d'autres aussi aspects, mais qui, contrairement à d'autres pensées critiques, met l'accent sur l'héritage colonial, c'est-à-dire comment, en fait, c'est la période coloniale qui inaugure, qui fonde, qui fait la genèse donc, de tous ces systèmes et de cette imbrication de systèmes de domination, apparaît au moment de la colonisation, qui, pour, dans une perspective décoloniale d'Abiyala, c'est-à-dire de l'Amérique du Sud, ou de l'Amérique latine, commence le 12 octobre 1492.
Voilà. Et elle commence à être latine à cette date-là, en fait.
Elle ne commence L'Amérique, pas à être... Elle n'est jamais latine. Elle n'est jamais latine.
Elle est
même,
en fait.
Même maintenant, elle n'est plus... Enfin, latine est un problème. Le terme d'Amérique latine, d'Amérique et d'Amérique latine, l'expression même d'Amérique latine est un problème parce que, d'une part, Amérique est un nom imposé par les colonisateurs en honneur des colonisateurs. Amerigo Vespucci, absolument, qui était un compagnon de Christophe Colomb. Et donc, on a donné le nom à ce continent, un continent qui avait déjà différents, des centaines de noms, puisqu'il y avait des centaines de peuples différents qui nommaient leur terre. On n'imagine pas des peuples qui se disent on ne sait pas où on habite, on attendra que un Européen génois nous dise exactement où on se trouve. Elle le donnait déjà et ça a été complètement effacé pour mettre le nom colonial d'Amérique. Et latine également est problématique parce que qu'est-ce qui est latin et qu'est-ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire qu'en fait, derrière latine, il n'y a pas du tout une idée culturelle. C'est une idée géographique. En fait, Amérique latine veut dire l'Amérique au sud des États-Unis. Parce que quand on pense géographiquement l'Amérique latine, on va inclure toute la Caraïbe. Et en la Caraïbe, il y a toutes les îles caribéennes n'ont pas de langue. Disons officielle, une des langues officielles, une langue latine, hein, la Jamaïque, le Suriname, donc même en Amérique du Sud. Donc latine, appeler tout cet espace-là Amérique latine est déjà fallacieux. Et en réalité, ça veut dire plutôt l'Amérique au sud des États-Unis. Elle n'est pas latine d'ailleurs non plus parce que, en disant cela, on pense qu'il n'y a que des langues latines, c'est-à-dire le français, le portugais et l'espagnol, ce qui efface et invisibilise des centaines d'autres langues qui sont et ont été longtemps majoritaires en termes de personnes qui les parlaient. Aujourd'hui, elles sont en voie de disparition. Donc ça, c'est un problème de la colonialité. Mais donc dire latine, Amérique latine, est une expression complètement coloniale.
Et donc, ce continent, donc Abiyala, a connu un premier événement tragique en 1492, qui est donc le débarquement de Christophe Colomb et donc de ses compagnons d'armes dans les Caraïbes, justement. Et c'est un événement qui, dans la pensée décoloniale, donc inaugure un moment, celui de l'introduction de la modernité. Donc la modernité qui, là, doit être pensée, enfin, elle est définie de manière bien spécifique dans la pensée décoloniale. Je pense que de toute façon, tu as déjà parlé un peu de colonialité, mais c'est vraiment les deux concepts clés de la pensée décoloniale, c'est modernité, colonialité. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu comment ils s'articulent dans la pensée décoloniale ?
Oui, alors la notion de modernité, elle n'est pas de la pensée critique décoloniale. Donc on s'inspire. On dialogue en tout cas avec ce qui déjà était réfléchi, pensé et analysé, notamment dans les études postcoloniales. Et je pense par exemple à Édouard Saïd, entre autres, qui ont donc développé l'idée que l'Occident instaure avec la colonisation une division du monde entre un Occident civilisé, un Occident de développement, un Occident de progrès et un Orient barbare et en retard qui ne sera jamais rattrapé. En vraiment ces deux phases. Ce qu'a la pensée décoloniale d'Abiyala, donc de l'Amérique, des Amériques, de l'Amérique latine,
du sud,
oui, du sud global, c'est que elle considère que cette modernité, elle ne naît pas au XVIIe, au XVIIIe siècle, au moment des Lumières, parce que en fait, souvent en France, en Europe, on pense plutôt la modernité, la naissance de la modernité au moment de avec la philosophie des Lumières, alors que pour la pensée décoloniale, la modernité, elle débute, elle est forgée dès le 12 octobre 1492. C'est à ce moment-là, lorsqu'on invente d'ailleurs la notion d'Indien, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est un Indien, c'est pareil. Un Indien, le 12 octobre 1492, les habitants de l'île de Guanahani, qui est la première île hein, dans laquelle arrivent ces colonisateurs complètement affamés, fébriles, malades, etc., et qui sont reçus comme des humains, et donc soignés. Et on aurait pu à ce moment-là les renvoyer ou voir les massacrer. Mmh. Et pourtant, ils restent. Il y a 80 personnes complètement défaillantes, en état de faiblesse absolue. À ce moment-là, ces personnes-là ne se présentent, celles qui reçoivent ces colonisateurs ou ces envahisseurs, ne se disent pas « nous sommes des Indiens ». Donc, il n'y a pas d'Indiens à ce moment-là. Il y a des peuples. Ils doivent se présenter certainement comme des Taïnos, parce qu'ils sont Taïnos, peuple. Ils parlent leur langue. Ils ont aussi leurs noms, les noms de leur région, de leur village, de leur peuple. Et tout ça va être invisibilisé par la colonisation, voire complètement anéanti. Bon, en pensée décoloniale, on parle ça d'épistémicide, c'est-à-dire d'un génocide culturel qui va aussi aller avec le génocide démographique tout court, qui est la grande catastrophe. La grande catastrophe d'Abiaya, là, à ce moment-là, puisque en l'espace de 60 ans, 50 à 60 ans, 90% de la population du continent va être complètement exterminée par la violence de la colonisation, et j'insiste beaucoup sur la question de la violence de la colonisation, et pas sur les maladies, c'est-à-dire que, certes, les maladies ont joué un rôle considérable, ces virus, mais ces virus ont été utilisés à des fins de domination aussi. C'est-à-dire qu'on vient de sortir, par exemple, là, d'une période de pandémie. On n'avait pas de vaccin, on n'avait pas d'armes masque. Pour... oui, on n'avait pas, en tout cas, de trouver immédiatement des réponses à cette épidémie, ou à cette pandémie. Et pourtant, on s'est dit que la première chose à faire, c'était d'isoler les personnes contaminées, d'éviter le contact, etc. Donc, on aurait pu le faire. Pourquoi au XVe siècle, ces personnes auraient été plus bêtes que nous aujourd'hui, enfin, considérer que...
Puis surtout, en fait, ces maladies qui ont effectivement été importées par les colons, c'est des maladies qui avaient touché l'Europe occidentale avant et qui elles-mêmes, en fait, avaient été importées d'Asie. Et les sociétés occidentales n'avaient pas d'écart technique médical particulièrement prenant vis-à-vis du continent américain. Et force est de constater que ces maladies n'ont pas décimé l'intégralité de la population européenne. Donc ça ne peut pas être le seul facteur explicatif, et c'est bien, comme tu dis, les guerres coloniales, la colonisation, etc., qui,
l'esclavage aussi. Je pense.
L'esclavage, mais voilà, qui constitue des facteurs
et d'utilisation
des sociétés, et l'utilisation. Voilà,
l'utilisation des maladies, c'est-à-dire que ça aussi, on a par exemple des codex mexicains, mayas notamment, qui montrent bien que les autochtones désormais, c'est-à-dire que, indien du coup, va désigner désormais les colonisés. Simplement. Donc c'est la première race, ça en pensée décoloniale, on va se dire que la première race créée dans l'histoire coloniale, eh bien c'est celle justement des Indiens, qui ne veut rien dire, parce qu'en réalité, il n'y a rien, ou beaucoup de différence entre un Innu du Canada et un Wahoon de l'Amazonie, en termes de langue, de culture.
Je peux te poser une question? Oui. Parce qu'à l'école, je me rappelle, c'est loin à l'école, hein. Eh bien, ils nous apprenaient qu'en fait, c'était une confusion, l'Indien. Il y avait les Indes occidentales et les Indes orientales. Et donc, comme ils ne savaient pas trop s'ils étaient arrivés dans les Indes orientales ou dans les Indes occidentales, ils croyaient que c'était les Indes. Est-ce que c'est vrai, ça?
Oui, ça, je pense qu'ils étaient les personnes qui sont arrivées, Les colons, parce qu'on les appelle souvent explorateurs, mais c'était des colons. Ils avaient déjà pour mission de s'approprier les terres qu'ils allaient... les terres et les richesses, enfin toutes les richesses des endroits qu'ils découvriraient, entre guillemets, qu'ils envahiraient. Eh bien, c'est eux qui étaient effectivement perdus. En fait, il y avait quelqu'un de perdu. Ce n'était pas l'Amérique qui a été découverte. C'est plutôt les Européens qui étaient vraiment perdus. Et donc, ils ont pensé qu'ils arrivaient dans les Indes et que c'était ce chemin-là. Mais très vite, donc quelques décennies plus tard, au début du XVIe siècle, on le sait d'ailleurs, Amerigo Vespucci, c'est l'un de ceux, mais il n'était pas le seul à ce moment-là, à considérer que ce n'était pas les Indes, que ce ne pouvait pas être les Indes. La Caraïbe était un autre espace, un autre monde, et c'est pour ça qu'il a parlé de nouveau monde. Donc, il le savait bien. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, et ce qui prouve bien qu'Indien, ce n'est pas un terme ni culturel, et encore moins génétique, parce qu'il n'y a pas un gène indien, enfin qu'est-ce que ça voudrait dire un gène indien, ni une culture indienne, puisqu'il y a des centaines de cultures différentes de ces peuples-là. Ce que ça veut dire, c'est que c'est un nom colonial, on le voit, parce qu'une fois qu'on se rend compte que ce n'était pas les Indes, et qu'on était dans un nouveau continent, d'ailleurs qu'on va nommer rapidement, ou assez rapidement, Amérique, on continue à appeler ces personnes indiens. On aurait pu se dire à ce moment-là, eh bien non, c'est faux, puisque c'est une erreur, on va trouver une autre appellation. Or, on l'a gardée, ce qui prouve bien que c'est plutôt...
intentionnel.
C'est-à-dire que ça représente plus une race, un groupe... C'est une définition raciale. C'est-à-dire que ce groupe-là... Alors, qu'est-ce que c'est que l'Indien au moment de la colonisation espagnole et portugaise, mais surtout espagnole, l'Indien, c'est celui qui paie le tribut par le simple fait d'avoir été colonisé. Pendant toute la période coloniale et même après, les Indiens paient un tribut que seuls eux vont payer. Ce sont les seuls aussi à donner obligatoirement, enfin à travailler de manière forcée. Ils font des travaux forcés par le fait d'être Indien. Donc en fait, durant toute la période coloniale, ceux qu'on appelle des Indiens, ce sont des serfs. Ça correspond aux serfs du Moyen-Âge. C'est-à-dire, ce ne sont pas des esclaves dans le sens où on n'a pas une législation qui les définisse comme Indiens, c'est légalement tel, ils sont propriétés de tel, mais concrètement, dans le système dans lequel ils se trouvent, c'est-à-dire des sortes de seigneuries qu'on appelle des haciendas dans l'espace espagnol, des fazendas dans l'espace portugais, eh bien, ils sont soumis à l'autorité du colon, qui les fait travailler gratuitement, qui leur vend beaucoup de produits très chers et inutiles dont ils n'ont pas besoin, qui les tient aussi. Ils ne peuvent pas quitter cet espace, ils ne peuvent pas quitter ce territoire sous peine de poursuite, qui leur interdit de s'organiser entre eux. Donc, vraiment, c'est ça l'Indien, en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les Amériques, toutes les personnes qui sont considérées encore dans ce groupe racial récusent cette appellation et on trouve ou on propose d'autres termes. En Amérique hispanique, on a remplacé, après les indépendances, Indien par indigène. Bon, en français, c'est problématique, donc c'est pour ça que je traduis plutôt par autochtone. Mais beaucoup de peuples disent non, mais des peuples originaires, des peuples autochtones, des peuples natifs, des peuples premiers aussi, c'est leur proposition pour essayer de rompre avec la colonialité du mot indien.
Et donc voilà, la pensée des coloniales, tu l'as dit un peu au début, elle s'interroge sur différentes formes de domination. Elle voit la colonialité, donc je vais essayer de synthétiser, puis tu me diras si je me trompe, tu n'hésites pas à m'interrompre. Donc elle voit en fait la colonialité comme ce qui fait un peu la synthèse dans la modernité de toutes ces formes de domination. Donc il y a une colonialité du pouvoir, il y a une colonialité du savoir, il y a une colonialité de l'être, il y a une colonialité du genre aussi. Donc ça, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Mais donc on a ce principe un peu colonial qui fait la synthèse dans la modernité. Et la pensée des coloniales s'attaque, alors je ne sais pas si on peut dire à déconstruire, à en tout cas essayer de faire une généalogie un peu de cette pensée coloniale et de comment en fait cette domination des savoirs permet aussi de dominer la manière dont on va penser tout le reste des rapports, des rapports sociaux, des rapports de production, des rapports de domination, etc. Et donc comment en fait la critique de cette colonialité du savoir va être nécessaire pour déjà thématiser cette situation coloniale et pour en sortir finalement. Parce que c'est la pensée décoloniale, c'est aussi, je pense, un truc qui est un peu central dans la pensée décoloniale, c'est la pensée de la pratique, quoi. C'est une pensée qui se veut une pensée de lutte politique et qui n'est pas, c'est pas une théorie contemplative, quoi. C'est vraiment une théorie qui est portée sur la pratique.
Oui, bon, absolument. Alors, peut-être ça me permet de définir un peu plus le terme de colonialité. Parce que, alors, avant de parler de la décolonialité, la colonialité, c'est à distinguer complètement, et ça, Aníbal Quijano, qui est celui qui forge l'expression de colonialité du pouvoir dans les années 1990, dit clairement que la colonialité n'est pas la même chose que le colonialisme ni la colonisation. Ils ont des points communs, ne serait-ce que étymologiquement. Ce sont la colonialité et l'organisation l'organisation du pouvoir ou un patron, un schéma global de pouvoir, une organisation du pouvoir à partir de critères coloniaux ou organisée dans un système colonial. Mais à la différence de la colonisation, la colonialité se poursuit après les indépendances ou après les décolonisations. En d'autres termes, nous avons de la colonialité aujourd'hui encore. Dans la perspective décoloniale, c'est ça qui fait son originalité, c'est qu'on se dit les rapports coloniaux de pouvoir qui ont été forgés dès donc, la fin du XVe siècle se sont maintenus jusqu'à nos jours. Ils ont évolué, ils ont muté, il y a eu des mutations, des évolutions, comme dans beaucoup de phénomènes, comme dans le capitalisme d'ailleurs, qui est pour Quijano, qui est un marxiste, un sociologue péruvien et marxiste au début, eh bien, comme pour le capitalisme, il y a des mutations dans la colonialité, mais on reste dans ces mêmes types de rapports. Et le fait, par exemple, qu'aujourd'hui, dans les Amériques, les autochtones, par exemple au Mexique, je pense au Mexique, au Pérou, se retrouvent toujours au bas de l'échelle dans des espaces qui sont les zones les plus pauvres, avec les emplois les plus précaires, avec un taux de pauvreté extrême, ou ce qu'on appelle la pauvreté extrême, beaucoup plus important que le reste de la population, montre bien qu'on est toujours dans des systèmes donc où la colonialité du pouvoir est présente. C'est pas parce que ils sont restés en retard, c'est parce qu'ils sont encore dans des schémas, et on peut appliquer la même chose pour les Afro-Américains en général, et je parle de tout le continent. C'est la même chose lorsqu'au Brésil on trouve que les favelas, elles sont peuplées à 80-90% par des Afro-Brésiliens. Ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'on reste toujours dans des schémas coloniaux de pouvoir. Et on ne vit plus, on ne peut pas dire que ni le Pérou ni le Brésil sont des pays ou des espaces colonisés par d'autres puissances. Donc c'est pour ça que le terme de colonialité sert à dire qu'au XVIe siècle, on vivait déjà dans un régime de colonialité, mais aujourd'hui, en 2021, on continue à vivre dans des régimes de colonialité. Cette colonialité est une colonialité qui, on peut voir des entrées différentes, comme tu viens de le dire, Samuel, et l'étudier par certains prismes. Donc on peut se dire que la colonialité du pouvoir, eh bien, c'est celle qui fait que les favelas de Rocinha, de Rio de Janeiro, est peuplée principalement d'Afro-Brésiliens. Mais la colonialité du savoir nous donne aussi un prisme, par exemple, de comment tous les connaissances, elles ont été aussi, par la colonisation, distribuées ou séparées et surtout hiérarchisée. Aujourd'hui, par exemple, et toujours, on considère qu'il n'y a que la pensée européenne, ce qu'on appelle l'eurocentrisme, la pensée européenne, elle est supérieure. La philosophie, en général, ou les philosophes occidentaux, et européens en particulier, sont de vrais philosophes. Lorsqu'on parle de philosophes, on devrait parler de philosophes boliviens, équatoriens du 16e, 17e siècle, on va dire, des penseurs au mieux, sinon des écrivains, des chroniqueurs, enfin on va les appeler de différentes manières, mais la philosophie, donc il y a toujours une idée que le savoir de l'Europe, donc des colonisateurs, est toujours supérieur aux autres. On va le voir également, par exemple, dans toute la question de des médecines. On parle de médecine pour l'Occident et l'Europe. En revanche, lorsque on pense dans les Andes et en Amazonie, il y a une tradition de soins, du soin des personnes, des communautés qui est ancienne, qui est très riche. Et pourtant, on ne va jamais parler de médecine, par exemple, Shipibo ou Yanomami. On va dire les croyances, voire beaucoup les superstitions. Ils ont été associés plutôt à la superstition. Plus d'ailleurs, un peuple est considéré comme inférieur en termes, puisque tous les peuples colonisés ne sont pas non plus au même niveau. Il y a une hiérarchie des peuples colonisés, absolument. Donc par exemple, dans l'espace de l'Amérique du Sud, les peuples de la montagne, des montagnes, sont considérés comme supérieurs, par exemple, aux peuples de la plaine et de l'Amazonie, par exemple, enfin surtout des forêts. Les peuples des forêts sont souvent de la jungle, d'ailleurs on parle jungle, qui veut dire bien péjorativement les plus sauvages parmi les sauvages. Eh bien, ceux-là, encore, eux, ils sont complètement superstitieux. Les autres peuvent avoir certaines connaissances, mais on va dire certains savoirs. Mais la médecine avec un M majuscule, eh bien, c'est la médecine occidentale. Donc, c'est ça la colonialité du savoir. C'est de dire que toujours, et donc on reste aujourd'hui encore marqué par cela. C'est-à-dire que lorsque, je reviens sur la question de la pandémie, mais on s'est tout de suite tourné vers les grands professeurs de grands hôpitaux du monde occidental. Jamais on s'est dit, mais probablement les personnes d'autres communautés, d'autres peuples ont des savoirs à apporter également, ça ne veut pas dire non plus supérieurs, mais on ne les a même pas considérés, on n'a même pas cherché à voir comment ces peuples auraient pu ou traiter ou ont traité. Peut-être qu'on le fera par la suite et on étudiera comment ça s'est produit, mais on n'a même pas pensé à cela parce que le soin, la santé, c'est l'affaire uniquement des dominants, en l'occurrence.
Et de leur laboratoire.
Et de leur laboratoire, absolument. Laboratoire qui, soit dit en passant, utilise, utilise tous les produits que connaissent les peuples autochtones du monde entier depuis des siècles. Et,
des millénaires, même.
Mais au moins des siècles, au moins depuis la période coloniale, enfin je veux dire. C'est ça la colonialité, par exemple, ça c'est la colonialité du savoir. Lorsqu'on parle de la colonialité de l'être, on va donc progressivement ajouter, en fait, affiner en fait la notion de colonialité à travers ces expressions, colonialité du savoir. Colonialité de l'être, ça fait référence à quelque chose qui est jusqu'à aujourd'hui visible. Les populations ne se valent pas. Toutes les populations ne sont pas considérées comme humaines à part entière. Les humains, avec un H majuscule, encore une fois, ce sont les colonisateurs et leurs descendants. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont des droits, les droits inaliénables, à commencer par celui de vivre, de pouvoir vivre, manger, se nourrir, dormir, avoir la santé. Ça, c'est de droit. Et donc, par exemple, on va respecter ces droits-là. En revanche, et de l'autre côté, on a des populations qui ne sont pas considérées comme des
humains,
personnes. Et pour celles-là, on va pouvoir réprimer, faire travailler, exploiter de manière totalement sans aucune pitié. Et on va absolument les considérer en fonction de leur origine, plus ou moins sauvages, donc plus ou moins barbares, ce qui fait que tous les colonisés... Alors, si je reprends les catégories raciales des Amériques, eh bien, on va trouver les métis, on va dire, en position plus ou moins colonisée, mais supérieure par rapport aux autres colonisés, ensuite les autochtones, et enfin les personnes noires. Donc ça, on le retrouve jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça, on parlait tout à l'heure de la situation du Pérou. Au Pérou, aujourd'hui, depuis un mois, il y a des émeutes. 18 morts aujourd'hui. Donc 18 personnes ont perdu la vie. Si ça s'était passé dans une ville de Lima, à Bogota, enfin, on ne serait pas arrivé à ça. On aurait déjà eu un nouveau gouvernement, des mesures, etc. Mais comme ça se passe dans les Andes, près du lac Titicaca, à Puno, dans un espace où les autochtones sont majoritaires et ce sont eux qui se lèvent, eh bien, la police peut impunément les abattre. Et de justifier cela par leur violence et leur caractère sauvage.
Il y avait une phrase de Walter Mignolo, donc un auteur dont on aura l'occasion de reparler, qui expliquait en gros que l'Occident avait toujours su justifier le fait qu'il fallait que ce soit lui qui administre en fait limite la planète entière, quoi, et que d'abord ça passait. Si je ne mélange pas les pinceaux. Il disait que d'abord, c'était les peuples sans écriture, voilà, qui devaient être administrés donc, par le savoir occidental. Ensuite, c'était finalement les peuples sans histoire. Donc ça, c'est plutôt Hegel, tout ça, qui au 18e, 19e, voilà, on vient justifier les peuples sans histoire. Voilà. Et il disait, lui, au 21e siècle, c'est les peuples sans démocratie, voilà, donc ils n'adoptent pas en fait, le modèle occidental, qui doivent être eux aussi administrés en fait, par l'OMC, par la Banque mondiale, par les interventions impérialistes, militaires, politiques, etc., de l'Occident. Mais quoi qu'il arrive, il y avait toujours une bonne raison pour que ce soit l'Occident qui administre le monde entier, quoi, finalement. Exactement. Et bon, Walter Mignolo, c'est un auteur donc très important du groupe Modernité-Colonialité, mais c'est un groupe dont on parlera en deuxième partie, après donc une courte interlude musicale.
Thank you.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Nous avons à la technique Vanna, en attendant que Jean-Michel nous rejoigne, et nous avons comme invité Lycelle. Lycelle, Samuel.
Donc on parlait avec Lycelle là de Walter Mignolo, donc qui est peut-être un des auteurs les plus connus mondialement, d'un groupe qui a son importance quand même dans la, pour la pensée décoloniale, qui est le groupe Modernité-Colonialité. Est-ce que tu pourrais rapidement nous présenter ce groupe et en quoi il est important pour la pensée décoloniale ?
Alors, le groupe Modernité-Colonialité-Décolonialité est un groupe de chercheuses et chercheurs qui ne forment pas une école, mais qui se sont retrouvés plutôt dans les universités des États-Unis. Ce sont des chercheuses et des chercheurs d'origine latino-américaine et qui donc enseignent là-bas et qui vont participer à construire ce qu'on appelle la théorie décoloniale. Le premier d'entre eux est Aníbal Quijano, dont j'ai parlé tout à l'heure, un sociologue péruvien qui a travaillé ou qui est arrivé à aux États-Unis et qui a travaillé avec Emmanuel Wallerstein, qui était son collègue à l'université. Et il était d'origine marxiste, Aníbal Quijano, comme Wallerstein. En pensant la question du système monde, qu'il travaillait au début des années 90, il a considéré, enfin il s'est rendu compte que la question du capitalisme ne pouvait pas être appréhendée sans le prisme racial. Pour lui, c'était évident, en venant du Pérou, que ce capitalisme qui effectivement était bien né à la fin du 15e siècle, donc avec l'arrivée des Européens, dans les Amériques pour eux.
Et l'esclavage.
Et l'esclavage, oui, mais d'abord
l'arrivée.
Et d'abord l'asservissement des populations et le génocide. Enfin, c'est ça aussi, surtout. C'est
tout
que il faut. Bien sûr, l'esclavage va venir très rapidement. En fait, tout ce système s'organise dans les 50 ans qui suivent l'arrivée de Christophe Colomb dans les Amériques. Enfin. Et ça devait justement être lu à travers un prisme aussi racial, parce que sinon c'était pas compréhensible. Enfin, il y avait pas de la race joue un rôle. Il dit la race est l'invention la plus importante des 500 dernières années. À des fins de domination. C'est la meilleure manière de dominer les populations. C'est
le meilleur outil.
Le meilleur outil, voilà, c'est ça, de domination. Et donc, il va introduire la notion de race. C'est lui qui va, en tout cas, en parler dans l'espace ou dans le groupe Modernité-Colonialité.
Mais est-ce que tu me permets une petite question ? Je sais que dans la tradition radicale noire, il y a Cédric Robinson qui, de son côté, a théorisé ce qu'il appelle le capitalisme racial. Est-ce que tu sais s'il y a eu un petit peu des passations théoriques, entre guillemets, ou est-ce qu'ils sont...
Oui, alors il y a des... C'est pas explicite, enfin, c'est pas cité par Quijano, non, mais effectivement, il y a... on peut penser que beaucoup de choses, puisqu'il vivait aux États-Unis, il était aux États-Unis, il enseignait aux États-Unis, il a dû avoir... Il y a beaucoup de dialogues, en fait, avec ses pensées critiques qui passent par les États-Unis, aussi les études postcoloniales, les études subalternes. Je pense que tout ça dialogue avec le groupe.
Donc, tu m'avais dit aussi qu'ils avaient un petit héritage avec l'école de Francfort en plus, tout ça.
Oui, tout ça, oui, en fait, tout est là, cristallisé, mais pas Quijano tout seul, et ça me permet de répondre à la question du groupe, parce qu'il n'y a pas que Quijano. Il y a d'autres chercheurs et chercheuses qui vont s'intégrer à ce groupe, qui vont échanger sur cette notion de colonialité et qui progressivement vont enrichir la notion de colonialité et même faire que Quijano retravaille, revoit aussi ou précise certains points. Certains points. Alors le groupe donc n'est pas une école, n'est pas un groupe non plus où tout le monde, disons, suit la même ligne. Il y a parfois même des critiques entre eux. Donc c'est un groupe dynamique et c'est un groupe de chercheurs sur la notion et cette question de colonialité, colonialité conçue comme des structures de pouvoir qui s'organisent à partir de la fin du XVe siècle en intégrant la question raciale et les races qui naissent dans les Amériques. En fait, c'est dans les Amériques qu'on voit naître les différentes races. Et aujourd'hui, par exemple, ce système d'organisation qu'on appelle le racisme structurel ou le racisme systémique, eh bien, il débute à ce moment-là. La première race, les premières races qui vont être créées, c'est la race des Indiens. Les Indiens comme race, et donc du coup les Espagnols, les Européens comme l'autre race. Ensuite, les déportations des personnes esclavisées, eh bien, les personnes esclavisées seront la race noire dans les Amériques.
Il faut préciser pourquoi, parce qu'il y a eu la controverse de Valladolid qui a donné une âme aux Indiens, et comme les Noirs étaient beaucoup plus résistants, on a trouvé un prétexte à ceci pour les déporter à la place de cette population qui avait été quasiment décimée.
Alors, c'est pas ma lecture de la controverse de Valladolid, mais ça me permet, je te remercie, Mariama, de lancer, parce que ça m'intéresse beaucoup. Alors, voilà. On dit que la controverse de Valladolid... Oui, voilà, ça, ce que tu as présenté, c'est un peu le discours un peu...
Dominant
sur la controverse. C'est... Alors, la controverse de Valladolid, je rappelle, c'est en 1550-1551.
Voilà.
À l'époque, on n'a pas de professeurs d'université. Les grands intellectuels, si on veut un équivalent avec notre aujourd'hui, ce sont les théologiens. Et donc, des théologiens espagnols se posent la question. C'est pas que se pose la question. Il y a toujours besoin, dans les systèmes de domination, d'intellectuels ou de penseurs qui justifient, qui légitiment les dominations. Parce que les dominations, elles ne peuvent pas non plus...
Aller de soi.
Toujours, oui. Il y a toujours, il faut des gens pour les justifier et théoriquement avec des,
les théologiens.
Des mots, voilà. Et à cette époque, ce sont des théologiens. Donc il y a d'autres théologiens qui s'affrontent, pas que, mais ce sont les plus connus. En fait, c'est tout un groupe de théologiens à Valladolid, une assemblée de théologiens. Mais les plus connus, ce sont Bartolomé de las Casas, qui est un théologien qui est allé dans les Amériques, qui était évêque au Mexique, d'une ville qui s'appelle le Chiapas, enfin d'une région au Chiapas, et Ginés de Sepúlveda, qui est un théologien, mais qui, lui, n'a jamais quitté l'Espagne. Et donc, ils ont deux perspectives de la colonisation différentes.
Mais qui se rejoignent. Ginés,
en fait, tous les deux justifient la colonisation. C'est-à-dire que Bartolomé de las Casas n'a jamais dit non, l'Espagne, il faut qu'elle quitte les Amériques. Non, eux, ils étaient tous les deux d'accord, et tous les théologiens d'ailleurs de cette époque, que la colonisation était
un bienfait
pour bien
pour les Indiens, et ça valait l'être pour les Noirs.
Juste, ils vont s'échanger sur la question de la violence. Voilà. Comment on doit faire cette colonisation? Est-ce que cette colonisation, elle doit continuer dans la violence qu'elle avait depuis le XVIe siècle, ou une autre forme de colonisation? Pour Ginés de Sepúlveda, la colonisation, elle doit continuer à être aussi violente qu'au début, alors que pour Bartolomé de las Casas, lui, il propose une sorte de colonisation plus humaine, soft, on va dire plutôt. Alors pourquoi? Mais pourquoi ça se pose à ce moment-là? Parce que je vous disais, ça fait donc, en 50 ans, la population des Amériques a chuté de 90%. Et ça, c'est un fait important à retenir. Ils se posent cette question pas parce qu'ils sont philanthropiques, qu'ils sont...
Non, c'est pour sauvegarder les moyens de production.
C'est qu'ils se rendent compte qu'ils ont, absolument, qu'il n'y a plus d'autochtones, par exemple, dans la Caraïbe, il n'y a plus de Taïnos. Ils ont disparu. On n'a plus d'habitants. Ils meurent, mais
comme des mouches.
Absolument. C'est un génocide. Et donc, ils sont paniqués et ils se disent, à ce rythme-là, on ne va plus avoir d'habitants. Et ça, non plus, ce n'est pas un projet politique de
les
décimer aussi largement. Donc, à ce moment-là, il y a des politiques pour protéger et on va faire naître des fonctions de protecteurs des Indiens, ce qu'on appelle des protecteurs des Indiens. Alors, ce n'est pas des protecteurs dans le sens « Ah, mais ils sont gentils, justement, ils ont une âme », c'est éviter l'hécatombe complète parce qu'on a perdu énormément d'habitants. Donc, à ce moment-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se dire, âme, peut-être qu'on peut parler... Ils n'échangent pas autour de la question de l'âme, ils échangent autour de la question de la barbarie. Et c'est clairement dans les textes, Bartolomé de las Casas dit clairement, on a trois types de barbares. Les barbares de la première catégorie qui sont un petit peu comme les barbares européens, si on pense aux Visigoths, aux Francs, les invasions barbares, grosso modo, ça c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont des barbares qui n'ont ni notre langue, ni l'écriture. D'ailleurs, la question de l'écriture, quand ces peuples n'ont ni écriture, ni langue... européenne, ils sont des barbares de la deuxième catégorie, et puis il y a des barbares presque complètement sauvages, eux ils n'ont aucune forme de police, ils ne peuvent pas s'organiser en communauté organisée, communauté politique organisée. Et donc, ils vont déclarer que les autochtones, mais c'est pour les protéger et c'est pour justifier la colonisation, et c'est pour ça que je dis, et pour l'organisation aussi raciale des Amériques, ils vont dire que les autochtones, les Indiens, sont des barbares de la deuxième catégorie. Donc, dans ce cas-là, ils peuvent être évangélisés. C'est pas qu'ils ont une âme, c'est qu'ils peuvent être évangélisés. On peut leur apprendre, mais c'est une façon aussi de les castellaniser. L'évangélisation, c'est juste un épistémicide culturel. Enfin, c'est un génocide culturel. C'est un épistémicide ou un génocide culturel. C'est leur extirper leur culture, leur faire haïr leur propre culture et leur imposer ou leur les acculturer avec la culture européenne. Et puis ceux qui n'ont pas du tout cette possibilité, sont les Noirs, exactement. Et eux, même pas une chance, mais eux, ils sont juste pour travailler parce qu'ils sont plus proches de l'animalité. Et ça me ramène à l'idée que c'est ça qu'on appelle la colonialité de l'être, dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cette séparation de l'humanité en deux groupes, ceux qui sont des humains et ceux qui ne sont pas des humains, les autochtones et les Noirs n'étant pas des humains.
Mais Bartolomé, c'est vraiment une question, il n'utilise pas l'argument comme quoi, en fait, finalement, on s'était trompé et les Indiens, ils descendraient, en fait, d'Adam et Ève, quand même, alors que les Noirs ne descendraient pas d'Adam et Ève. Il n'utilise pas cet argument, justement.
Moi, je ne l'ai pas lu.
Moi non plus.
Ils descendent de Seth, qui était noir, dans la Bible.
Ah oui, ça doit être ça. Parce que je n'ai pas lu Adam et Ève, moi.
D'accord.
Non plus. Et d'ailleurs, je vous renvoie au film qui est célèbre sur la controverse de Valladolid, où joue le défunt Jean-Louis Trintignant face à l'autre acteur qui est très bien et dont j'ai oublié le nom et dont je cherche le nom depuis tout à l'heure. Bon, c'est sur Internet, vous pouvez les regarder.
Et donc un auteur un peu dans le groupe... Alors le groupe, c'est Modernité, Colonialité, Décolonialité. D'accord. Oui. Dans ce groupe, il y a un auteur qui a beaucoup travaillé sur la colonialité de l'être, c'est Nelson Maldonado Torres. Et donc lui, si j'ai bien compris l'hypothèse qu'il défend, c'est l'idée de dire que dans le continent colonisé, on a imposé une éthique de la guerre, mais qui ne s'appliquerait du coup qu'aux colonisés, quoi, et qui les ferait sortir un peu de ce régime d'humanité qu'on appliquerait, donc qui est en dehors du régime de la guerre, qui serait celui appliqué pour les occidentaux, et les colonisés, à l'inverse, seraient une non-éthique, du coup, plutôt, de la guerre permanente, quoi, finalement, qu'on fait chez eux, c'est ça?
Alors, c'est un peu en lien avec ce qu'on vient de dire à l'époque même de la controverse de Valladolid. À le moment de la controverse de Valladolid, on parle de la guerre juste qu'on doit faire aux colonisés. Et ça va rester cette idée, c'est-à-dire que la guerre, la violence plutôt, qu'on applique à ces colonisés,
elle est légitime.
Elle est légitime
par Dieu.
Par la supériorité occidentale. Absolument. À l'époque, donc, je dirais que ça, c'est peut-être la rupture ou le lien avec les postcoloniaux et les décoloniaux, c'est que cette
lecture.
Cette violence ou la légitimation de la violence, elle va être divine ou religieuse, théologique jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, et à partir du XVIIIe siècle,
elle devient économique.
Elle devient universitaire. Ce sont les universitaires, les scientifiques. C'est les scientifiques plutôt, c'est la science. On va remplacer l'Église par la science.
La biologisation aussi.
Oui, et la science. Voilà. La science va justifier la guerre aussi, hein, et la colonisation. Donc aujourd'hui, ce qu'on se dit, et dans tous les mouvements sociaux, il faut réprimer, par exemple, ces personnes ou ces révoltes, parce que, justement, elles sont sauvages, enfin, elles sont perturbatrices, parce qu'elles ne sont pas organisées, parce qu'il n'y a pas de bonne organisation, gestion. De bonne gestion. C'est juste de l'anarchie, alors, pour le coup.
Et c'est un chaos anarchiste. Et
destructeur. Et destructeur parce que c'est anarchiste et destructeur, terroriste. Donc c'est un, comme je disais tout à l'heure, c'est un qualificatif qu'on va souvent employer vers ces, en direction de ces populations, notamment autochtones, mais pas seulement, qui se révoltent. Hein, et donc ils vont détruire forcément l'ordre établi. Et donc il faut réprimer. Donc il va organiser et séparer. Cette colonialité de l'être sépare ces deux groupes pour pouvoir mieux réprimer ceux qui sont considérés. C'est parce qu'on peut et on les considère comme non-humains qu'on peut les réprimer ainsi. Parce que quand, si nous sortons, et c'est ce qu'on dit souvent aujourd'hui, nous, dans le Nord global, manifester, on sait qu'on, a priori, en Europe, on va respecter. On va rentrer chez nous. Sain et sauf. Bon,
c'était
peut-être
vrai jusqu'à il y a 25 ans.
Alors, globalement, on va rentrer en vie. Bon, il n'y a quand même pas des morts systématiquement à chaque manifestation. Alors que dans le sud global, dans l'espace du sud global,
il y a des morts à toutes les manifestations.
Il y a des morts tout le temps et ils sont justifiés et sans surtout aucun procès, aucune procédure d'enquête, aucune et encore aucune procédure judiciaire. Alors, ça me permet aussi de préciser sur cette question de nord et de sud global, qui est une autre notion des études décoloniales, c'est que lorsqu'on parle de nord et sud global, ce ne sont pas des notions géographiques. Hein. Globalement, ça va un peu coller quand même avec la géographie, et donc le sud global correspond à l'échelle planétaire à ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde. Mais ce que dit aussi la notion de nord et de sud global, c'est que dans ces suds tiers-monde, il y a du nord global, c'est-à-dire que quand on arrive à São Paulo dans un quartier hyper sécurisé où on a des polices privées qui vérifient qui rentre, qui sort, à quel endroit on se tient, on peut circuler des centres commerciaux où on a ultra sécurisés, mais on a tous les magasins des grandes enseignes de luxe de la planète entière où on peut on achète à des milliers de dollars, ça c'est du nord global. Enfin, ça c'est du nord global, dans le sud, alors qu'on est à São Paulo. Et que dans les pays du nord géographique, on peut trouver aussi des zones de sud global. Lorsqu'on a des ghettos, par exemple, où vivent les populations roms, eh bien on est dans un sud global.
C'est-à-dire, des banlieues même.
Où, bien sûr, mais je parle à l'échelle européenne, on va trouver la persécution, l'assassinat et exactement, et tous les quartiers aussi, les quartiers populaires, notamment peuplés par des personnes issues de l'immigration, là aussi, beaucoup sont des espaces de sud global où on n'a pas du tout aucun respect des droits fondamentaux. Que pourtant devrait avoir dans ces pays.
Où il y a des services publics de qualité.
Et on a une répression systématique de ces populations, de ces jeunes. Les contrôles d'identité, ces contrôles systématiques, répétés, eh bien c'est de là, ça nous prouve bien qu'on est dans un espace du sud global, alors qu'on est en France, ou à Madrid, ou à Bruxelles. Donc, Voilà, donc pour préciser que lorsque on parle de nord et de sud global, c'est plus complexe ou c'est au-delà de juste des notions géographiques. Et ça, c'est aussi intéressant parce que ça permet de rendre, me semble-t-il, plus dynamique.
Plus fin.
Voilà, permet une analyse plus fine des phénomènes sociaux et des phénomènes de domination.
Alors, dans ce contexte, est-ce que je peux poser une question à Lycelle ? Dans ce contexte, que penser du mouvement qui a émergé après la mort par un policier noir sous les caméras du monde entier de Black Lives Matter ? Parce que c'est un mouvement qui existait depuis très longtemps, mais il a émergé avec la mort de George Floyd. Que penser de ce mouvement ?
Alors,
5 minutes avant la pause musicale.
D'accord.
J'exagère.
Non. Que pensez le mouvement, alors, qu'on est justement là, on prouve bien que les ghettos sont des espaces du sud global, voilà. Alors même qu'on est aux États-Unis. C'est la première puissance mondiale économique du monde, mais que même, et que surtout dans ces espaces, donc c'est vrai que c'est... cette notion ou ces notions de nord et de sud global me permettent de voir que c'est plus complexe que juste diviser le monde en deux, le planisphère en deux, et que on a dans les espaces du nord géographique ou les grandes puissances justement des territoires qui sont mais géré de manière complètement coloniale. Et donc, c'est ça qui prouve qu'on est toujours dans des régimes de colonialité, alors même qu'aux États-Unis, la colonisation est terminée depuis 1776,
Paraît-il, la guerre de sécession.
C'est pour ça qu'on peut dire que la colonialité, elle perdure au-delà des moments de décolonisation, d'indépendance des régimes, et que ces indépendances, par exemple, si on pense justement au cas des États-Unis, eh bien, ce sont pas des processus de décolonialité, mais ce sont plutôt des changements. Des mutations de la colonialité.
Ouais.
D'ailleurs, aux États-Unis, c'est clair. C'est-à-dire de passer quand même d'un régime d'esclavage où le système esclavagiste régnait à des systèmes, des lois Jim Crow de ségrégation, d'apartheid, des ségrégations qui sont...
simplement d'appliquer les règles selon qu'on est au Mexique, au Nouveau-Mexique, qui est entre le Mexique et l'Amérique du Nord, la colonisation espagnole, pourquoi on l'appelle une ville comme Los Angeles, ou comment on ségrègue les hispaniques, qui vont être la première langue bientôt parlée aux États-Unis, et comment les hispaniques ont plutôt tendance à se tourner vers les Noirs, et donc ça explique que beaucoup d'artistes se mélangent entre eux, mais il peut y avoir des kyrielles de disques ou pas un blanc, et ils vont être au top dans le monde entier.
Oui, oui, absolument. Donc, en fait, il y a dans l'idée de colonialité, il y a la question de la colonialité, mais surtout, et c'est ce que disait Samuel tout à l'heure, ce qui est très important, c'est que penser cette colonialité, et jusque-là on n'a parlé que de colonialité, mais le plus important c'est de penser la décolonialité. Mmh. Et ça c'est l'apport aussi de la pensée décoloniale d'Abi Ayala, là, c'est qu'on est constamment dans, et alors maintenant qu'on sait qu'on n'a jamais comment quitté le régime de colonialité, comment on sort de ce...
Et ça sera la dernière partie de notre émission.
J'aimerais quand même dire un petit mot,
si tu
me permets. C'est qu'il y a un livre pour ça qui est sorti, donc qui est déjà sorti du pour le coup, et alors je sais pas si tu le conseilles du coup, c'est Pluriversel.
Décolonial, non ?
Je sais plus, bon, c'est un pavé, et je crois que. Je sais plus si c'est Doucet ou si c'est Escobar qui est dans les noms un peu hype, entre guillemets, qui sont mis en avant pour dire moi achetez-le. Mais bon, voilà, c'est un Pluriversel, c'est un peu une sorte de dictionnaire décolonial, quoi, qui reprend plein de concepts pour les expliquer et tout, Donc voilà, il y a déjà cette première parution. Parce que ce qui est difficile avec la pensée décoloniale, c'est qu'en français, il n'y a pas beaucoup de choses disponibles. Oui. Quoi. C'est surtout en espagnol et en anglais, finalement, quoi, pour ce qu'on pourra trouver.
Est-ce que, excuse-moi. Est-ce que tu considères que Fanon fait partie de ce mouvement, même s'il n'avait pas encore de nom, le mouvement, mais est-ce que tu crois qu'il en fait partie ou qu'il est juste précurseur, là ?
Alors, François Fanon, il est plus rattaché. Alors, il est mobilisé notamment, il a été beaucoup travaillé par Maldonado Torres, notamment dans la question justement de l'idée de colonialité de l'être. Eh bien, ça vient directement de la recherche sur la colonialité, enfin l'idée plutôt de Fanon, de la zone de l'être et de la zone du non-être. Oui. Donc il est clairement, il a été étudié par des penseurs décoloniaux. Mais personnellement, je considère que Fanon, plutôt on peut l'inscrire dans une pensée lui-même, de ce que, comment il est, son espace et son champ, c'est dans la pensée plutôt post-coloniale que décoloniale. Oui, un peu comme Maldoni. Oui, on se
réactif,
plutôt. Oui, ouais. Voilà.
Et parce ça, on le voit bien dans le film que Raoul Peck, le documentaire que Raoul Peck consacre à Baldwin, I'm Not Your Negro. Il est brillant. Oui. Je vous le conseille. Il est vendu dans tous les bons DVTech. Ça coûte 6 euros. Raoul Peck, I'm Not Your Negro. Allez-y.
Et juste pour compléter, donc pourquoi Fanon n'est pas un décolonial ou on ne peut pas l'inscrire dans la pensée décoloniale, parce que je viens de donner les deux critères de la pensée décoloniale. C'est, 1492. Or, Fanon ne parle pas et n'inclut pas du tout l'Amérique, donc comme moment de construction de la...
Il ne fait pas allusion aux Caribéens, puisqu'il était martiniquais, lui, non ?
Oui, mais dans... Bon, c'est pas exactement... Enfin, il fait allusion, mais c'est...
C'est pas son fil conducteur.
Voilà. Ça n'a pas la même place, voilà, dans sa théorie.
Voilà.
Bon, on fait une deuxième pause musicale et puis on se retrouvera juste après pour parler d'un point important dont on n'a pas parlé, c'est la colonialité du genre.
Negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí.
¿Cómo?
Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí.
Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí.
Yo no había nacido.
Sabroso, este ritmo festejo aquí.
Así.
Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí.
Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí.
Otra vez.
Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí.
Lo hizo Porfirio Vázquez.
Cuando era pequeña, yo le dije a papá, yo quiero cantar, yo quiero tocar. Le dije a papá, yo quiero ser como tú. Le dije a papá,
Éditeur de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Donc nous avons à la technique Vanna, Jean-Mi arrivant. Nous avons comme invité Lycelle et comme intervenant principal ce cher Samuel. Alors Lycelle,
est-ce que tu peux nous parler des musiques que tu as choisies?
Alors là, on vient d'écouter une musique des Bayonne qui est une chanteuse afro-péruvienne et de la musique afro-péruvienne. Alors j'ai choisi déjà je commence par celle qu'on vient d'écouter parce que on ne sait pas souvent, ou on oublie, ou parfois on ne sait pas qu'il y a une communauté afro-péruvienne qui a une histoire importante dans celle du Pérou et une présence encore aujourd'hui, et notamment culturelle et musicale, qui est très forte. Et la première, c'est une musique qu'on appelle aujourd'hui la cumbia péruvienne, qui est une fusion un peu de la musique andine et de la musique un peu occidentale, mais qui développe pas mal de thèmes, de liens, nous renvoie en fait à la question des autochtones et comment ils ont été, ils sont considérés dans le Pérou aujourd'hui ou pas bien, en tout cas. Voilà.
Et du coup, donc il y a des rapports un peu entre groupes qu'on pourrait dire peut-être subalternes. Alors je sais pas si, vu que c'est un terme de Spivak, je sais pas si toi
tu l'utilises,
d'accord. Donc il y a un peu voilà une communication entre groupes subalternes un peu différents, mais qui au final même artistiquement par exemple peuvent se retrouver comme ça sur des formes de syncrétisme culturel.
Syncrétisme culturel, même de convergence des luttes, je dirais historiques, puisque beaucoup de communautés marronnes, donc celles de fugitifs par exemple, de personnes esclavisées, étaient recueillies ou s'associaient avec des communautés autochtones.
Notamment les Séminoles.
Oui.
Donc c'est pour ça qu'au Sénégal, un grand journal s'appelle Séminole en référence à ceci. Et c'est pour ça qu'au carnaval de la Nouvelle-Orléans, les Noirs sont en Indien. C'est pour les remercier de ça, de cette aide.
Oui, mais il y en a dans tous les pays. En Colombie, on appelle les palenques, en Colombie, dans tout l'espace hispano-américain. Au Brésil, les quilombos, mais surtout dans la partie hispano, ou en tout cas colonisée par l'Espagne, beaucoup de communautés marronnes se sont retrouvées aussi avec les autochtones, avec l'aide. Souvent, l'alliance s'est faite historiquement. Et aujourd'hui aussi, en effet, en question en termes de musique, on va trouver ces fusions de différents genres musicaux dans la cuisine également. Enfin, on le voit à travers la cuisine et toutes les cuisines des Amériques et de l'Amérique au sud des États-Unis en particulier ont des traits comme ça, qui montrent la résistance plutôt de ces communautés, la résistance à la colonialité, qui n'a pas pu peut-être s'exprimer ouvertement, ou pas toujours, mais qui est restée dans ces zones, dans les questions des pratiques, des savoirs, la médecine aussi, donc tous ces espaces.
C'est intéressant que tu parles de cuisine parce que dans les savoirs dominants ou dans les discours dominants, on a tendance à prendre un peu de haut, tu sais, l'idée de colonialité ou de racisme dans la cuisine en disant mais non, ça c'est n'importe quoi. Et en même temps, on est toujours en train de nous dire, dès qu'il y a un endroit où on ne vend pas d'alcool, où il y a de la bouffe halal ou des trucs comme ça, c'est le scandale médiatique permanent en France, quoi. Donc c'est vrai que la cuisine, paradoxalement, c'est quand même un espace, même là, quoi, même jusque dans les plats, quoi, il y a un rapport qui peut être colonial entretenu comme ça, où on ne va pas tolérer certaines nourritures, où on va en expulser d'autres, en promouvoir d'autres, etc. Et donc, c'est là qu'on voit quand même que la colonialité, c'est quelque chose qui se... Voilà, ça se glisse vraiment jusque dans l'assiette, et ça se glisse aussi donc dans les rapports de genre. Et donc il y a une autrice qui est importante pour toi, c'est Maria Lugones.
Maria Lugones, oui.
Est-ce que tu pourrais nous dire en quoi elle est importante pour toi?
Alors Maria Lugones est une philosophe argentine qui s'est retrouvée dans le groupe Modernité-Colonialité-Décolonialité, qui dans les années 90, comme je disais, s'est organisée aux États-Unis, dans les universités états-uniennes. Et elle est partie plutôt d'une critique d'Aníbal Quijano. Enfin, elle a contribué à sa manière dans la critique en disant que Quijano n'avait pas suffisamment pris en compte la question du genre dans sa réflexion sur la colonialité du pouvoir. Il avait vu la race, hein, qu'il avait surtout travaillé sur ces questions-là, mais il avait laissé de côté la question du genre. Et pour elle, qui était une femme lesbienne, c'était important que de penser aussi la question du genre. Et donc Maria Lugones, elle propose de compléter la question de la colonialité ou d'aborder d'un autre prisme. En fait, la colonialité, c'est ça, dans cette notion, c'est ce qui est riche, c'est qu'on peut l'aborder sous différents prismes, hein, comme on a vu, les colonialités du les savoirs, l'être. Et elle, pour elle, c'était la question du féminisme. Elle avait une formation de féministe. Et donc, à partir de cet apport intellectuel, cet apport et ce savoir situé, elle a proposé son concept de colonialité du genre. Je sais pas si tu veux que je...
Et c'est un concept, quand elle le développe, parce que tu as précisé que c'était une femme et qu'elle était aussi lesbienne, donc elle inclut déjà la sexualité dans la formation du genre. Alors qu'on sait que, par exemple, dans les théories féministes occidentales, c'est quelque chose qui n'était pas du tout pensé au début. C'est Butler qui, en fait, on trouve dans le genre, vraiment développé cette question. En disant, mais si, la sexualité, c'est aussi constitutif du genre, et ça doit être pensé avec. Et donc, elle, donc Maria Lugones, elle fait une critique aussi de l'idée même de sexe biologique, de binarisation. Ça a été un outil au service donc du pouvoir colonial, qui a dû contrôler par exemple la fécondité. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels tu as travaillé. Est-ce que tu pourrais peut-être expliquer en quelques mots pour nos auditeurs ces thématiques?
Oui, alors la colonialité du genre, elle a deux axes, je dirais. Le premier est que, comme tu viens de le dire, la colonialité du genre déconstruit l'idée de binarisme sexuel, en fait, en disant à Maria Lugones a lu beaucoup de travaux d'autochtones, et notamment de Paula Gunn Allen, qui est une intellectuelle états-unienne d'origine autochtone, métisse, mais d'origine autochtone aussi, et qui avait étudié chez certains peuples autochtones des États-Unis le fait qu'il y avait historiquement pas eu un binarisme sexuel, et que donc de genre plutôt, on va dire, qu'il y avait historiquement, en tout cas encore au 19e siècle, des différents genres, hein, et peut-être jusqu'à 5 genres différents, qui vont de ce que on pourrait appeler, nous, ce qui est le plus masculin au plus féminin, tel que nous le concevons aujourd'hui. Et c'est pour faire des... C'est pas très... peut-être tout à fait précis, mais c'est pour que nous, on comprenne à quoi ça correspond. C'est schématique, absolument. Et entre les deux, une certaine fluidité en fonction des besoins économiques, en fonction des besoins de la communauté, on pouvait se déplacer dans cet espace plus large. Et que la colonisation va imposer deux genres uniquement, le masculin et le féminin, dans un système qui était beaucoup plus souple, beaucoup plus fluide autrefois. Donc la colonialité du genre, en partant de ces travaux, Maria Lugones va dire, c'est partout, c'est pas uniquement aux États-Unis. On voit par exemple au Mexique, il y a une communauté qui s'appelle la communauté des Mujeres, qui est ce qu'on appellerait aujourd'hui, les Occidentaux appellent ça un troisième sexe, donc des personnes qui ne sont pas des personnes trans, qui ont fait une transition via la médecine, mais qui sont vraiment un groupe de personnes qui seraient assignées hommes à la naissance dans notre espace, mais qui, au Mexique, forment une communauté autre, donc avec des traits qui vont entre les deux, qui ne colle ni dans un genre ni dans l'autre. Ça tend à prouver que ça existe dans d'autres communautés aussi, dans d'autres peuples des Amériques et du monde aussi. Mmh. On retrouve. Et donc, à travers ces exemples-là, nous montrent qu'il n'y a pas eu toujours et partout que deux genres absolument séparés, catégoriques et opposés. Donc, ça, il pouvait exister davantage. La deuxième idée de la colonialité du genre, c'est que à cela, en plus de ce binarisme imposé par la colonisation, on va retrouver aussi la colonialité de l'être, dont on a parlé tout à l'heure, qui va venir se greffer là-dedans. En d'autres termes, la colonisation crée dans les Amériques deux catégories qui n'existaient pas, les hommes et les femmes. Qu'est-ce qu'on entend par les hommes et les femmes? Bon, les hommes, ça va être tel qu'on les définit en Europe, les hommes vaillants, qui sont les colons, les hommes intelligents, forts, ceux qui dominent. Et puis, les femmes, telles qu'on les entend en Europe à la même époque, donc les femmes qui sont plutôt définies par leur beauté, par leur fragilité, par leur délicatesse, par leur raffinement, eh bien ces deux catégories hommes et femmes, elles ne sont pas généralisées. C'est-à-dire que les seules personnes qui auront le privilège dans les Amériques à s'appeler femmes, eh bien ce sont les Européennes et leurs descendantes, qu'on appelle dans l'Amérique hispanique les créoles. Ce sont les seules personnes qui auront le privilège de s'appeler des femmes. Les autres, eh bien, elles ne seront jamais des femmes, elles seront des femelles. Mmh. Donc, plus proches, vous voyez, la colonialité, pas considérée donc comme des humaines à part entière. Et donc, de ce fait, ça va légitimer leur exploitation économique, mais aussi leur exploitation sexuelle. L'hypersexualisation va être un des caractères des femmes qu'on dirait aujourd'hui racisées, donc autochtones, afro en général. Donc ça, ces deux notions combinées nous montrent bien que la colonialité ou la colonisation impose des systèmes de domination de genre tout à fait spécifiques et desquels on ne sort pas et qui vont même être exportés dans les autres continents au fur et à mesure que la colonisation européenne s'étend au reste du monde. Et on va trouver les mêmes schémas en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne, en Asie, de la même manière. Une imposition partout de ce binarisme avec la séparation entre ceux qui ont les caractères humains, sexuels et de genre humains, et qui sont donc privilégiés, et les autres qui peuvent être dominés et exploités sexuellement par leur infériorité. Donc ça, c'est, disons, l'idée... peut-être c'est encore un peu plus complexe dans les travaux de Malielle Wonis, mais que j'ai un peu résumé pour les besoins de l'émission.
Et dans cette... c'est intéressant, je trouve cette distinction entre hommes et femmes pour les occidentaux et mâles et femelles, donc pour ceux qui ne sont pas occidentaux. Et il y a toujours un peu ce... Parce que je l'avais lu chez Amir Méziane quand il parlait en fait de l'Orient. Mais en fait, on retrouve un peu cette même idée, il me semble, en Amérique, où en fait, le mâle colonisé représente toujours un danger parce que c'est le violeur, parce qu'il est agressif, parce qu'il est sauvage, parce que... voilà. Et la femelle, elle représente un danger à cause de sa fécondité. Et finalement, il y a toujours ce danger. En fait, finalement, la théorie du grand remplacement, aujourd'hui, c'est un truc qui fait paniquer l'Occident, mais c'est avant tout une panique de colons, quoi. C'est la panique que le colonisé, à cause de la fécondité, donc animal, dite animal décolonisé, se retrouve en fait en telle situation d'infériorité qu'il soit privé de sa situation de pouvoir, quoi.
Oui.
Et donc du coup, cette colonialité du genre, elle passe aussi par un contrôle des fécondités.
Totalement, toujours par le contrôle. Bon, le contrôle des corps en général,
oui,
les corps décolonisés. Mais et encore une fois, les corps décolonisés ne sont pas les mêmes corps. Il y a aussi une catégorisation et une hiérarchisation même chez les corps décolonisés. Je dis ça parce que si toutes les femmes colonisées ne sont pas considérées comme des femelles, elles sont pas les mêmes non plus.
Oui.
C'est-à-dire que les femmes autochtones ne sont pas aussi autant sexualisées, par exemple, que les femmes d'origine africaine, qui sont beaucoup plus. Parce que,
exact.
Comme hiérarchiquement, ben encore une fois, ça vient de cette hiérarchisation des races. Et lorsque on va inclure, par exemple, les populations asiatiques, ça sera aussi un autre groupe qui va être également placé dans cette échelle supérieure, par exemple, par rapport aux autochtones et par rapport aux femmes africaines ou d'origine africaine.
Voilà.
Donc, tout ça, ça va rendre encore plus... ça montre que la colonialité, c'est pas juste coloniser et colonisateur. Et puis, en fonction de ça, en fonction de ces différenciations, on va avoir des traitements de contrôle particulier. Alors pour les autochtones par exemple, bon, c'est l'idée et pour toutes qu'effectivement il y a une reproduction très facile. Enfin, c'est plus on est animal et plus on sait par exemple soi-disant accoucher. Voilà, exactement. Voir dans les Andes comme des cochons d'Inde.
Ouais.
On dit par exemple les autochtones jusqu'à aujourd'hui, se reproduisent comme des cochons d'Inde, comme des lapins. Elles n'ont pas besoin donc du coup d'assistance. Voilà. Médical ou d'accompagnement, parce qu'elles peuvent... d'ailleurs, souvent, le mythe était qu'elles accouchaient elles mettaient bas, en réalité, comme les femelles animales, et qu'aussitôt, donc, elles pouvaient reprendre le travail. Donc, immédiatement, elles pouvaient se relever. L'idée aussi qu'elles n'ont pas de soins. Elles ne savent pas, elles ne sont jamais de bonnes mères. Par exemple, ça, c'est une incidence. Et ça aussi, c'est de la colonialité du genre. Elles ne seront jamais de bonnes mères, puisqu'elles ne s'occupent pas correctement
de leurs enfants.
De leurs enfants. De leurs enfants. Hein, elles les tiennent un peu, justement, comme des petits animaux un peu autour. Elles n'ont pas de douleur, elles ne souffrent pas non plus, par exemple, au moment des maladies, parce qu'elles sont sauvages. Donc tout ça, ça a des incidences sur la gestion jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça je dirais que ce que je parle historiquement, si ça s'était resté uniquement dans l'histoire, on pourrait se dire, c'était pas bien, mais c'est fini. Or, par exemple, aujourd'hui, dans les hôpitaux, la question du syndrome méditerranéen, c'est clairement en lien avec cette colonialité du genre. Considérée, et on n'a pas en France et dans d'autres, et dans tous les pays, ça c'est pas... C'est difficile de faire un suivi et de vérifier, mais tout le personnel, tous les personnels de santé le savent, dans les maternités par exemple, et puis les femmes elles-mêmes qui y vont, que selon que la patiente est blanche ou racisée, on va avoir
un traitement différent.
Dès qu'une femme blanche se plaint d'un peu de douleur, on va immédiatement mobiliser les soins, les infirmières. Quand on a des femmes racisées, surtout noires, c'est l'exagération. Il faut attendre un peu pour être sûr, parce qu'on part du principe que c'est toujours exagéré, que ce n'est pas vrai, que la souffrance elle est inventée et que elles font toujours trop. Donc il y a déjà et ça c'est enseigné en plus par exemple dans les écoles de sages-femmes. On dit attention parce que certaines femmes, alors on va pas le dire comme ça
ouvertement,
mais on va le dire, certaines femmes, attention, certaines elles exagèrent un peu, donc il faut vérifier que vraiment il y a
c'est pas psychosomatique,
que c'est pas juste parce qu'elles ont très peur et que des choses comme ça. C'est aussi on le voit sur le taux des césariennes. La césarienne est cette opération qui devient de plus en plus importante, qui est dans le monde. Eh bien, on sait que, par exemple, en France, dans les années 80, et là, il y a eu des études qui le confirment, que les femmes noires en France étaient plus césarisées que les femmes blanches, parce qu'il y avait, et on enseignait ça, c'était dans les manuels, on enseignait jusqu'aux années 80-90 que le bassin des femmes noires était plus étroit et donc plus difficile pour les bébés de passer et que donc ça justifiait un taux plus élevé de césarienne. En réalité, donc ces formes-là, ce qu'elles nous montrent, c'est que ce sont des formes de contrôle des corps, des corps des femmes racisées, beaucoup plus... c'est pas pour le soin, c'est pour le contrôle. Je dirais que c'est la différence.
Le contrôle des naissances, parce qu'on sait qu'au bout de 3 césariennes, on ne peut plus avoir d'enfants. Donc c'était aussi un moyen de stopper les naissances.
D'une part, de contrôler aussi le corps, c'est-à-dire de discipliner les corps. De discipline, parce que l'accouchement, c'est un moment pour les femmes plutôt où c'est à elles de faire le travail, de bouger, etc. Bon, faire une césarienne, c'est coucher, la faire dormir ou l'anesthésier, ne pas lui permettre de vivre ce grand moment. Ensuite, c'est douloureux pour les suites. Enfin, on oublie et souvent on présente comme une opération banale. Or, la césarienne est douloureuse, a des effets secondaires sur la femme qui a accouché et sur le bébé. Donc il y a tout ça et il y a aussi l'idée que il faut toujours voir, vérifier, et ça c'est un lien aussi avec l'expérimentation, parce que ces corps de femmes racisées ou des femmes non blanches ont été des corps d'abord d'expérimentation, et ça on le sait aux États-Unis. Toute l'histoire de la gynécologie, c'est d'abord l'histoire de l'expérimentation sur le corps des femmes noires aux États-Unis dans les plantations, parce que les premiers par exemple à appeler les obstétriciens, c'était une fois que la traite par exemple est abolie au 19e siècle, justement le moment où se développe la science occidentale et l'obstétrique moderne. On ne peut plus acheter aussi facilement des esclaves ou importer des esclaves dans les plantations, donc il faut les reproduire sur place et donc il faut trouver des moyens de reproduction. Donc ça, c'est parfois à cette époque, c'était plus pour les reproduire ou reproduire. Et ensuite, à partir des années 50, dans l'idée qu'elles se sont trop reproduites, qu'il y a trop de personnes dans le sud.
Et le grand remplacement arrive.
Exactement, de limiter les naissances. Et partout, on a imposé, donc le contrôle aussi, tous les systèmes de planification familiale, de planification d'abord des années 60, dès les années 50, ce sont des programmes diffusé et promu par l'ONU de planification familiale. Derrière le nom planification, contraception, stérilisation forcée, limitation,
la totale.
Travail, les infirmières allaient maison par maison, village après village, pour dire non, il faut réduire, tu as trop d'enfants, il faut réduire, tiens, il faut prendre ça, non, et si, et puis progressivement aussi, avec toute la question des aides, on aidait, Et jusqu'à aujourd'hui, les programmes, par exemple, Bolsa Familia au Brésil, tous les programmes de, d'aide conditionnée, elle est conditionnée à quoi ? Conditionnée à ce que ces femmes n'aient pas trop d'enfants.
Oui.
Donc, vraiment, la colonialité, on la voit jusqu'à aujourd'hui dans ces politiques, ou ces biopolitiques.
Terme focalien, donc, pour conclure.
Voilà.
On arrive malheureusement au terme de l'émission. Peut-être une dernière question.
Les luttes.
Qu'est-ce qu'on fait ?
Oui, qu'est-ce qu'on fait ?
Comment on sort de la colonialité ?
Comment on sort de la colonialité ? Par le mot que tu as prononcé il y a quelques minutes, la pluriversité, enfin, ou la, le pluriversel, c'est-à-dire d'abord à soutenir l'Occident, il s'est imposé partout. On a un monde ou une colonialité qui s'est diffusée surtout au XXe siècle, mais il reste des peuples qui résistent, des peuples autres, les peuples qu'on dit peuples autres, mais qui maintiennent alors leur forme différente de vie. Qui sont. Il ne s'agit pas d'idéaliser, de dire ils sont parfaits, ce sont des saints, ce sont des. Non, il faut juste respecter pour qu'on n'ait pas un seul monde, celui de la colonialité, qui soit le seul et unique. L'universalisme, c'est ça le problème de l'universalisme. C'est qu'il nous, il va nous amener à avoir un seul monde, celui qui est colonial, le nôtre. La sortir de la colonialité passe tout d'abord par, par tous les moyens, défendre ces peuples en Australie, en Asie du Sud-Est, dans les Andes, en Amazonie,
En Afrique.
En Afrique, bien sûr, partout, qui luttent pour, ne, pour maintenir tout simplement leur tradition, leur mode de vie, leur langue. Et ça, c'est déjà le premier pas. On a une responsabilité énorme à les accompagner et à lutter pour qu'ils déjà, ils nous fournissent. C'est eux qui nous donneront aussi des clés de sortie de ce monde colonial.
Bah, merci beaucoup. On espère te retrouver pour la sortie de ton livre.
Merci.
Et
merci
pour le 9 mars.
Le 9 mars, et d'ici là, bah, merci Mariama aussi. Merci François. Merci Vanna pour la technique. Et à dans deux semaines.
Oui, à dans deux semaines. D'ici là, protégez-vous. Et on vous renouvelle nos voeux de bonne année et de bonne santé. Santé, sachant que depuis 17h, on est au courant pour les retraites. Et on va essayer de faire battre en retraite M. Macron. Au revoir.
Et puis on pourrait.
Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, j'ai dessiné en mes facettes. Un cœur rouge, il y aurait d'un gars, sans oublier de la faillette. Ils vous diront, il faut avoir un grain sur les rainettes pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que c'était sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas. Cela peut arriver au prophète. Monsieur le président, Madame Chirac, Bernadette. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains. Au moins, cassez les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer du futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Et moi je joue le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. Moi interdit le territoire, j'ai fait appel à marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici ils peuvent les faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes toutes les Villeneuves. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musil aura jamais de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'OTAN d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les tenues de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse trouve de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges, c'est qui mon juge, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, Serge des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'Anan, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous veut la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous veut la preuve.